Ah, ça y est, les micros. Je la refais. Bonjour à tous. Je ne sais pas vous, mais je la sens mal cette année 2018.
J'suis cette émission, pas... cette année
Déjà, 2018, moi, complet. Ça, on est mal parti. Je suis pas hyper serein. Ça a déjà commencé l'année dernière, quand on discute avec les copains et que de plus en plus, on s'emporte très vite sur des sujets graves de manière parfois un peu trop outragée pour que ce soit normal. Il se passe des choses graves et j'ai parfois l'impression qu'on essaye doucement de nous endormir, dans le meilleur des cas et pour être poli. Et prenons quelques exemples bien différents, mais qui vont illustrer mon propos. Il m'arrive parfois en rentrant de l'entraînement le soir, de faire chauffer ma soupe et mettre la télé, parfois devant Cache Investigation d'Élise Lucet. Et là, un sujet sur les arbitrages hallucinants qui opposent des multinationales aux États, c'est-à-dire un seul tocard, hein, face au peuple, nous en l'occurrence. Cette fois, c'était une exploitation minière qui allait détruire la terre de centaines de paysans roumains en déversant en plus de quantités astronomiques de mercure pour extraire de l'or et ravir nos bijouteries. Élise Lucet va donc voir les responsables du projet, avec des preuves, un dossier béton, afin d'avoir des explications. Elle insiste pour que nous soyons informés. Et les jours suivants, les journalistes médias, les éditorialistes, se mettent alors à discuter de la méthode Lucet. Elle est agressive, on ne débarque pas comme ça devant les responsables. Non mais attendez, c'est qui est agressive dans l'histoire? Élise Lucet qui pose des questions légitimes ou l'entreprise qui détruit des hommes, des femmes et le milieu? Et derrière, le reportage passe complètement à la trappe alors que les types devraient prendre 20 ans de prison. Tout à fait autre chose, je suis sûr comme moi que vous avez déjà dû entendre parfois, comme fait divers, une fille qui est partie seule courir en forêt ou le soir, qui s'est faite violer et assassiner. Ça arrive malheureusement bien trop souvent. Et parfois, sur une discussion de comptoir, on en arrive à ce genre de conseil. Ouais, mais les filles évitaient d'aller courir seules en forêt, ou faudrait pas y aller aux mêmes heures. Excusez-moi, mais là encore c'est aberrant. Personne ne doit modifier son comportement. Ce qui est horrible, c'est le violeur. C'est pas d'aller courir dans les bois. Il n'y a rien de plus fantastique que d'aller courir dans la nature. Et c'est pas parce qu'il y a des connards qui traînent et qu'il faudrait s'adapter à leur comportement. C'est hors de question. Ne déplaçons pas la faute sur des gens qui ne font rien de mal. Ce genre d'argument, de conseil est tout simplement insupportable. Enfin, bien moins grave, mais qui amène aussi à des comportements, des propos répugnants. Avant de partir en vacances, mon proprio vient me voir et me demande « Tu pars en vacances ?»« Oui, jusqu'au 2. »« Ah, il y en a qui ont de la chance. » Alors c'est dit sans méchanceté, hein, et sûrement avec gentillesse, mais je suis désolé, non, j'ai pas de la chance, putain. Je les ai gagnées, ces vacances. C'est normal d'avoir des vacances. Et je ne dis pas que s'il n'en a pas, c'est qu'il ne les a pas gagnées. Il a plein de raisons de bosser, mais qu'il ne me juge pas parce que moi j'en ai. C'est normal d'avoir des vacances et on ne doit pas se sentir privilégié ou coupable, ça dépend, par rapport aux autres d'être en congé. Ces trois exemples pour dire quoi finalement? À différentes échelles de gravité, on est aujourd'hui capable de transiger avec tout, de trouver des excuses à tout, et quand parfois le sujet dérange des puissants, la mine d'or en Roumanie, ou souligne l'incapacité de la société à protéger les citoyens, quand on court en forêt, les médias et leur flot de commentateurs qui ont un avis sur tout sont capables de déplacer le débat et nous endormir complètement. Ce qui est intolérable, c'est qu'on tue, vire les paysans et pollue nos terres, qu'on viole des joggeuses, qu'on fasse croire que ce sont les petits qui nuisent au système. Tout le monde, par exemple, commente aujourd'hui le contrôle des chômeurs, mais plus personne ne parle des Panama Papers et de ceux qui échappent à l'impôt, tout en profitant des écoles, des hôpitaux, des routes, que les impôts des autres payent. Alors à chaque fois, quels sont les faits? Est-ce qu'on les accepte ou pas? Le reste n'est que lavage de cerveau qui banalise, atténue des pratiques qui permettent à certains de profiter d'un système où, quand on est fort, on a le droit de tout faire. Je ne vous ai pas souhaité de bonne année parce que ça me paraît maintenant hypocrite. J'espère juste qu'on va tendre vers plus d'égalité entre tous parce qu'il faut que ça change, qu'on arrête de prendre aux petites gens, qu'on arrête de nous faire croire que nous sommes responsables alors que certains se gavent sur le dos de tous avec des pratiques aux conséquences humaines, environnementales à gerber. Ce billet est un peu brouillon, il traduit beaucoup d'agacement, mais il faudra que tout cela cesse un jour.
Chers auditeurs, chères auditrices, c'est avec plaisir que je prends l'antenne pour cette première émission Quoi de Neuf Doc de 2018. Bon, et moi je vais un petit peu prendre le côté, je vais faire le gentil flic ce soir, donc je vais quand même vous souhaiter une bonne année, pleine de projets, pleine de bonheur
et
pleine de
fait.
Science, bien sûr. Hein, toi aussi, ouais, non t'es le méchant flic. Mais justement, la science, il l'adore, il en rêve la nuit, il la vit le jour. C'est pour cela que nous le retrouvons pour débuter cette année avec un billet d'humeur très engagé, comme à son habitude. Il s'agit d'Antoine Vernet, notre jeune docteur en écologie. Et car il adore la science et qu'elle lui le rend bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette année, il animera l'émission Quoi de Neuf Doc, un mois sur deux, et qui sait, peut-être plus si affinité. Chacun ses petits vœux pour 2018.
Merci Barbara.
En tout cas, ne vous inquiétez pas, je suis sûre que cela va bien se passer. Comme cette émission, cette première émission de 2018, elle va très bien se passer. Donc Alice, détends-toi à la technique. On va faire, et c'est 2018, on va faire des choses nouvelles. Donc ce soir, on vous propose un nouveau concept. Il va falloir deviner les jingles avec nous. Donc je pense que ça peut être un petit peu sympa. Bon, revenons à l'émission de manière plus pratique. Eux aussi, ils aiment la science. Peut-être avec moins de ponctualité pour nombre d'entre eux. Donc là, je fais passer un message. Nouvelle année, envoyez vos thématiques de chronique à l'heure, ce sera parfait. Après, vous débrouillez avec Antoine pour le mois prochain. Mais il répond tout de même présent. Ouais, voilà, ça va être moins cool. Bon, il s'agit, vous l'avez deviné, des chroniqueurs de l'émission. Nous comptons certes deux absents ce soir. Et oui, il y en a certains qui sont des privilégiés, qui sont partis en vacances.
Les salauds.
Bon, il y en a d'autres qui rentrent de vacances et qui étaient encore plus privilégiés. Je ne viserai personne autour de cette table. Mais nous comptons surtout cinq chroniqueurs présents ce soir. Alors, Jules Barthélémy, doctorant en droit, qui n'a pas perdu son sérieux durant les fêtes, lui non plus, puisque pour Alteractif, il s'interroge ce soir lors d'une chronique intitulée « Référendum, comment faire autrement ?». Une chronique dans laquelle il ne manquera pas, je pense, de parler de la démocratie, une notion qui fait écho à la thématique abordée ce soir par Quentin Rodriguez, doctorant en philosophie des sciences, puisqu'il évoquera les sciences en démocratie dans l'arrière-cuisine des sciences. Ensuite, plus terre à terre, Geoffrey Vola, doctorant en sciences de la communication, nous lancera un nouveau défi dans l'instant court-circuit de l'utopie, cap ou pas cap, zéro déchet. Puis, même si Arthur n'est pas là ce soir, nous parlerons encore et toujours mathématiques. Décidément, les mathématiques en 2018, elles nous lâchent pas. Olivier Carvin, doctorant en sciences de l'économie, répondra à une question piège. Pourquoi les femmes ne doivent pas faire de mathématiques? Bon, attention à toi tout de même, hein, quand même, si tu ne veux pas t'attirer les foudres de ces dames. En plus, méfie-toi, ce soir à la technique, c'est Alice, et je suis sûre qu'elle peut être très virulente si tu dis des bêtises. Enfin, Ludivine Paris réalisera l'agendoc de cette rentrée 2018, un agenda comprenant notamment la présentation des rencontres Montagne et Sciences, un événement présenté par Élodie Blandin, chargée de projet à Astuce Sciences. Donc une émission variée, pleine de rebondissements, alors ça, c'est parti pour qu'il n'y en ait jamais eu autant. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux grâce au hashtag QDND, quoi neuf doc. Nous serons ravis de connaître vos retours. En effet, la critique peut être source d'amélioration. Et n'est-ce pas le but lorsque le peuple exprime son opinion? Qu'en penses-tu, Jules? Ce n'est pas là l'objectif du référendum?
Merci. Alors bonjour et bonne année 2018 à tout le monde. Alors, l'année qui arrive pourrait être marquée par bien des événements imprévus, mais également par ceux qui sont programmés. Et parmi ce type d'événements, il y en a un qui revient régulièrement, c'est le référendum. Vous connaissez l'idée, on pose une question et les citoyens répondent, doivent répondre oui ou non lors d'un vote. Alors, après le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne en 2016, le référendum illégal pour certains sur l'autodétermination de la Catalogne en 2017, 2018 concernera plus particulièrement la France avec, a priori, l'organisation d'un référendum sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie. Mais que se cache-t-il derrière le référendum? En France, il fait partie intégrante de l'histoire des républiques d'après-guerre. Pourtant, au cours du XIXe siècle, la consultation populaire relevait plutôt des empires que des républiques. L'empereur descendait demander son approbation au bon peuple de France, qui lui accordait généralement, facile quand la majeure partie de la population ne sait pas lire et que l'opposition est tenue au silence. Nous garderons de cette expérience une image descendante du référendum. Loin d'être un outil d'intervention du citoyen dans la vie de la collectivité, les référendums français ont toujours servi de validation de projets présidentiels et gouvernementaux, voire de sondages de popularité. Le président descend voir ce que le bon peuple pense. Si de Gaulle fut si friand de cet outil qu'il causa sa chute, les autres présidents, par crainte, ont peu eu recours au référendum. Et puis, il y a eu le drame. Le 29 mai 2005, ce jour où le bon peuple n'a pas fait ce qu'on lui a demandé, alors qu'un large consensus existait dans les classes sociales les plus aisées. Haro sur les vilains, le résultat sera contourné 2 ans plus tard, et de même en 2009 lorsque les Irlandais rejetèrent le traité de Lisbonne avant de devoir revoter et cette fois-ci le ratifier, mais avec une participation dérisoire. Lors d'un référendum descendant, une question posée par le pouvoir politique au peuple, il y a une bonne réponse, et le seul but de ce référendum est d'obtenir un consentement, pas un avis et encore moins une décision. Alors, en dehors de la France, l'on retrouve l'idée de la bonne réponse au Royaume-Uni, où certains appellent à un nouveau vote sur le Brexit. En Catalogne, cette fois, le référendum est l'objet d'une lutte entre deux pouvoirs et entre deux bonnes réponses, la bonne réponse de la Catalogne et celle de l'Espagne. En Allemagne, l'outil est carrément interdit de par le souvenir du régime nazi. Alors, le référendum n'est-il qu'une machine entre les mains des gouvernants ou des dictateurs ? Eh bien, pas partout. En effet, dans certains États des États-Unis, en Suisse ou en Italie, la plupart des référendums sont issus de pétitions signées par des citoyens qui provoquent des référendums d'initiative populaire. Alors attention, cet outil a permis à de nombreux lobbies de faire valoir leurs propres intérêts en profitant de leur capacité financière pour faire campagne. Mais cela a aussi permis des expressions démocratiques fortes. Alors parfois, les citoyens ne peuvent qu'initier un référendum pour annuler une loi, parfois ils peuvent proposer, selon les systèmes. Dans ce contexte, le référendum n'est plus un outil autoritaire de gouvernement, mais un moyen d'expression citoyen dans le gouvernement de l'État. Alors, autre usage du référendum, l'on peut noter que celui-ci est parfois préalable à toute ratification d'un traité ou toute révision constitutionnelle, donc tout changement du droit de la Constitution ou des traités qui sont signés. Et c'est le cas en Irlande, où le référendum constitue une digue populaire à tout projet politique. Et enfin, même dans la logique descendante, le choix peut être plus subtil. Au Bénin, lors du référendum du 2 décembre 1990, qui devait valider le nouveau régime démocratique, les citoyens furent consultés pour savoir s'ils validaient ou non la Constitution, tout en offrant une possibilité de valider cette Constitution sans valider le point litigieux, à savoir la fixation d'une limite d'âge pour être candidat à l'élection présidentielle. Et les Béninois ont fait le choix de valider cette limitation. Et le référendum, ici, il a permis aux citoyens de trancher sur les hésitations des rédacteurs de la Constitution. Alors, en comparaison, nos référendums français semblent bien peu démocratiques à côté de ce qui se fait ailleurs. Y aurait-il une réticence à reconnaître aux simples citoyens un pouvoir d'intervention au pays des droits de l'homme ? Possible, mais l'enseignement que l'on tire de cette comparaison, c'est qu'un outil, le référendum, peut connaître bien des usages et que les discours définitifs, positifs comme négatifs, sont à regarder avec méfiance. Le citoyen n'est généralement pas idiot et en validant ou non le projet d'un président, il sait qu'il ne fait pas que répondre à une question et il agit en conséquence. Son choix est donc bien plus fin que ce que veulent bien reconnaître nombre de commentateurs. Alors, face à un citoyen pas assez idiot pour gouverner tranquillement, peut-on faire autrement que le référendum pour résoudre les problèmes sensibles ? Difficile à dire, mais il est clair, en sortant d'une perspective franco-française, que l'on peut organiser des référendums de bien différentes manières.
Mien doué, mien do tona se. Lon lon ya ova mi doué lo. Non viva mien ilo. Va, non viva do tona asse. E alon lon non vigne. Non viva do to agbe ya wo. Non viva do to agbe ya wo. Non viva. Bien ilo, agbele te kwa o, bien ila, bien ilo vivida, na mesia me. Va, no te va mi, mia no to nase, no te va mia duwe lo, mia duwe mia no to nase, no lo ya o va mi duwe lo. Non viva mia ilo. Va, non viva do tone asse. E alolo non via. Non viva do to agwe yo wo. Non viva do to agwe yo wo. Non viva mia ilo. Agwe le te kwa wo. Mia ila. Mia ilo vivida. Non, mais si un mec. Vamilo, vamila,
Il est actuellement 18h20, vous êtes sur les ondes de Radio Campus pour l'émission de l'association Doctovergne, Quoi de neuf Doc. Vous venez de découvrir le titre Long Long d'Angélique Kidjo, un titre plein de douceur et qui nous emporte loin. Ça fait du bien, non? Un petit peu de calme. Bref, revenons à notre émission. Parlons science, mais parlons surtout zéro déchet. Je vais laisser l'antenne à Geoffrey. C'est l'instant quoi?
De l'utopie!
Ah ouais, un sacré jingle, ouais. Et ouais, c'est l'instant court de l'utopie, comme l'a si bien dit Antoine.
Je me suis appliqué.
Et aujourd'hui, on va tenter toujours, encore et toujours, de sauver le monde en changeant nos pratiques au quotidien. Dans ce numéro, c'est Amandine qui a décidé de sauter le pas grâce à sa mamie. Elle va se mettre au zéro déchet. Bon, je vous explique. En fait, dimanche dernier, elle a mangé chez sa mamie. Et voilà que, comme à chaque fois, elle a répété, donc sa mamie, « Qu'est-ce qu'on jette des choses ?» À mon époque, on n'avait même pas de poubelle, c'est simple, il n'y avait pas d'emballage. Et le reste, bah, ça allait aux poules ou aux cochons. Et c'est vrai que ça donne quand même un peu à réfléchir. Car elle n'a pas tort, mamie. Chaque année, nous consommons presque deux fois le budget écologique annuel de la Terre, c'est-à-dire ce qu'elle est en capacité de recevoir. Et nous envoyons des centaines de millions de tonnes de déchets en décharge ou en incinérateur. Du coup, consommer responsable, fabriquer ses produits alimentaires et ménagers, choisir des produits réutilisables, éviter les emballages et les suremballages, rallonger la durée de vie des objets, bref, faire du zéro déchet, c'est le défi d'Amandine. Bon, c'est toujours la même question, hein. Par où commencer? En quelques clics, Amandine se rassure. Elle n'est pas la seule à chercher à réduire ses déchets. Il existe des blogs, des comptes Instagram et même des bouquins. On est des milliers, en fait, à tenter le défi. Elle en est certaine, elle va y arriver. Bien renseignée, elle se rend donc au magasin Vrac qui est ouvert il y a peu de temps à Clermont, Day by Day. Et elle demande spontanément des conseils à Elodie, la gérante. Elodie lui répond cash. Première étape, faut vider ses placards, faut passer au Vrac. Deuxième étape, oublie l'industriel et retourne progressivement au fait maison. Reviens à des pratiques plus simples. Pourquoi pas, se dit Amandine, c'est une question d'habitude et d'adaptation. Mais on va quand même falloir acheter des sacs en coton et des bocaux. Bien motivée, Amandine se lance donc 10 défis. Premier défi, utiliser un autocollant stop pub pour éviter les 40 kilos de pub qu'on reçoit chaque année. Deuxième défi, simple, trier le verre. Troisième défi, elle précise, si toi aussi tu fais un peu au pif, renseigne-toi sur ce que tu mets réellement dans la poubelle jaune dans ta ville. Quatrième défi, composter les déchets organiques et les amener au jardin le plus proche. Cinquième défi, remplacer le savon et le shampoing liquide par des produits solides. Défi numéro 6, acheter des produits secs en vrac. Défi numéro 7, faire ses propres gâteaux. Huitième défi, acheter tout pile ce qu'il te faut en quantité et arrête de te faire ken par le marketing. Neuvième défi, achète ton prochain vêtement d'occasion. Dixième défi, arrête le sopalin et remplace-le par des torchons lavables. Et enfin, un petit dernier pour la route, chaque mois, enlève une habitude qui génère des déchets. Bon, vous posez toutes et tous la question, est-ce qu'Amandine a réussi son défi? Eh bien oui, plutôt. Et elle précise, le zéro déchet, oui, à condition de ne pas écarter les petits plaisirs culinaires ponctuels. Une autre règle aussi importante, éviter la frustration et la moralisation. Optez plutôt pour un effet papillon. Et si t'es sensible à la démarche, parle-en à tes amis, parle-en à tes voisins, et n'hésite pas à leur partager ton expérience. Côté maison, Amandine est conquise. Sa cuisine est ornée de bocaux pour stocker ses produits en vrac. Idem pour sa salle de bain, qui accueille depuis peu sa lessive, son savon et son dentifrice fait maison. Zéro déchet, les amis, tout le monde ne l'atteindra pas. En tout cas, pas du jour au lendemain. Mais pour autant, dès qu'on commence à réduire nos déchets, c'est déjà un grand pas. Alors à vous de jouer.
Alors... Ah, décidément. Non, j'allais dire, pour compléter le propos, quelques petites adresses pour passer au zéro déchet à Clermont-Ferrand. Donc, Day by Day que tu as cité, 14 rue Saint-Genest. Également, tu peux trouver un groupe local sur un site en ligne, donc www.zerowastefrance.org. Et enfin, si tu as envie de lire un petit peu, puisque a priori, quand on aime la science, on aime lire. Non, peut-être que c'est kitsch, ce que je viens de dire. Il y a la Bible du... Oh, dis donc. La Bible du zéro déchet, de Famille Zéro Déchet, de Jérémy Pichon et Bénédicte Moret. Sur ce, je vous laisse en musique cette fois.
Da, da. C'est le monsieur dehors, dehors. C'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle a pas bien entendu. Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture. Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel. En attendant les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil. Tout va bien. Tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Si les hommes se tirent dessus, c'est qu'il y a des vaccins dans les balles. Et si les bâtiments explosent, c'est pour fabriquer des étoiles. Et si un jour ils ont disparu, c'est qu'ils s'amusaient tellement bien. Ils sont partis loin faire une ronde, tous entrés, main dans la main. Tout va bien. Tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien.
Ніколи не вірь тому, що написано.
Да. Да.
Vous êtes toujours à l'antenne de Radio Campus pour Quoi de Neuf Doc, l'émission qui vous en apprend toujours plus sur le monde qui vous entoure. Un monde que décrit avec beaucoup d'ironie Aurel San dans le premier titre, dans le deuxième titre de son nouvel album, Tout va bien. Effectivement, tout va bien ce soir, ça nous va assez bien je trouve. Tout va bien, rien ne va plus. Justement, puisque tout va bien, Olivier nous explique ce soir pourquoi les femmes ne doivent pas faire de mathématiques.
Po, 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 po.
Allez, hola moi Simon, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne, c'est que de l'amour.
Po, 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 po. Merci, merci à Antoine pour cette formidable imitation de Patrick Sébastien, au cas où vous l'auriez pas reconnu.
De rien Olivier, c'est un plaisir.
Je vais commencer ma chronique par une question toute simple. Vous savez que la médaille Fields est un peu considérée comme l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. D'après vous, sur les 56 médailles Fields qui ont été décernées depuis leur création en 1936, combien l'ont été à des femmes ?
Zéro.
Zéro. Alors j'ai du zéro et j'ai du un, et c'est un, effectivement. Une seule femme a reçu la médaille Fields, et c'était lors de la dernière attribution en 2016. Donc ce qui fait quand même un total de 1,8% des médailles qui ont été attribuées à des femmes. Ce qui est quand même beaucoup moins que pour le prix Nobel de littérature, pour lequel il y a eu, accrochez-vous, 12,3% des prix qui ont été décernés à des femmes. Alors, cependant, on peut dire que la très forte discrimination dans l'attribution des médailles Fields n'est finalement que la conséquence d'une très faible proportion de femmes chercheuses dans les mathématiques, comme on l'avait vu dans ma chronique du mois d'octobre. Cette faible proportion est elle-même justifiée par un stéréotype, une croyance populaire selon laquelle les femmes ne seraient pas faites pour les mathématiques. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce que je vais essayer d'expliquer dans cette chronique. Alors, la première hypothèse, c'est que le cerveau de la femme ne serait pas constitué de la même façon que le cerveau de l'homme. Une étude d'Ingala Icar, je l'ai bien prononcé, en 2014, réalisée sur 949 individus, a en effet montré que le cerveau de l'homme adulte possède en moyenne beaucoup plus de connexions verticales, c'est-à-dire des connexions entre le même hémisphère du cerveau, tandis que le cerveau de la femme, lui, possède plus de connexions horizontales, c'est-à-dire des connexions entre les deux hémisphères du cerveau. Et donc, selon cette étude, les connexions verticales permettent une plus grande vitesse de traitement des informations, tandis que plus de connexions horizontales favorisent l'intuition et aussi ce que l'on appelle l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la capacité d'analyser son propre ressenti et celui des autres, à l'exprimer et à agir en société. En gros, si on veut caricaturer, les hommes sont meilleurs en logique et donc en mathématiques, tandis que les femmes sont meilleures en intuition et dans les langues, ce qui confirme finalement le stéréotype. Mais il y a plusieurs mais. Premièrement, il n'y a pas encore de consensus scientifique sur la différence homme-femme dans les connexions intra- et inter-hémisphères, et cette étude de 2014 est la première statistiquement fiable à avoir établi cette différence. Deuxièmement, en supposant que les autres études confirment ce résultat, pour autant, cela ne veut pas dire que les différences entre hommes et femmes seraient physiologiques. En effet, cette même étude montre qu'il n'existe pas de différence observée chez les sujets enfants et que ces différences ne sont observées qu'à partir de l'adolescence. Alors là, vous allez me dire, logique, puisque ce sont les hormones sexuelles développées à partir de l'adolescence qui sont à l'origine des différences entre le cerveau des hommes et le cerveau des femmes. En effet, il a été montré, par exemple, que les neurones de l'hypothalamus chez la femme s'activent chaque mois pour déclencher l'ovulation et qu'il existe donc des connexions entre les neurones spécifiques à la femme dans cette zone du cerveau. En revanche, rien n'indique que ces hormones sexuelles auraient une influence sur la structure des hémisphères cérébraux et donc des connexions entre ces deux hémisphères. Les différences de connexion qui apparaissent à partir de l'adolescence ne sont donc pas d'origine hormonale. On en vient donc à la deuxième hypothèse qui est si différence de capacité entre hommes et femmes y aurait, celle-ci n'est pas innée mais est due à l'environnement. Un phénomène vient appuyer cette hypothèse qui est la prophétie autoréalisatrice. Formulée pour la première fois en 1942 par un sociologue nommé Merton, la prophétie autoréalisatrice est le fait que, je cite, « c'est une définition fausse de la situation qui provoque un comportement qui fait que cette définition, initialement fausse, devient vraie ». Dit autrement, dans notre cas, le stéréotype dit que les femmes sont mauvaises en mathématiques. Celles-ci vont donc, entre guillemets, être volontairement mauvaises afin que ce stéréotype devienne vrai. Plusieurs études en psychologie sociale montrent qu'il semblerait bien que cette prophétie autoréalisatrice existe pour le cas des femmes dans les mathématiques. Par exemple, une étude a été réalisée sur des écoliers en France. On proposait à deux groupes d'écoliers le même exercice. Il s'agissait de reproduire, de mémoire, une figure géométrique assez compliquée. Dans le premier groupe, on a présenté cet exercice comme étant un exercice de géométrie. Le résultat est sans appel, les garçons réussissent bien mieux que les filles. Dans le second groupe, on leur dit qu'il s'agit d'un exercice de dessin. Et là, les filles ont de meilleurs résultats que les garçons, pour le même exercice. Ainsi, la simple évocation de la géométrie constitue un obstacle pour les filles. Encore plus frappant, vous connaissez probablement le fameux test PISA, qui est un test réalisé sur des jeunes de 15 ans dans plus de 60 pays afin de comparer les performances des élèves entre ces pays. Eh bien, on observe sur le test effectué en 2003 que les filles ont en moyenne sur l'ensemble des pays 10,5 points de moins que les garçons en mathématiques. Mais surtout, ce qui est plus intéressant, c'est que la différence entre les filles et les garçons en mathématiques est directement corrélée avec le degré d'émancipation des femmes dans le pays. Ainsi, en Turquie, les filles ont en moyenne 22,6 points de moins que les garçons, tandis qu'en Islande, elles ont en moyenne 14,5 points de plus. Et quand bien même une fille n'est pas victime de la prophétie autoréalisatrice, un deuxième phénomène intervient, l'autosélection sociale. C'est tout simplement le fait que les femmes ont tendance volontairement, si je puis dire, à s'orienter vers des filières non mathématiques, même lorsqu'elles ont des meilleures notes en mathématiques durant leur scolarité dans le secondaire. On en arrive donc à une situation où les femmes sont largement minoritaires dans les filières mathématiques, ce qui nourrit encore plus le stéréotype. Ainsi en France, comme je l'avais dit dans ma première chronique, on n'observe absolument aucune évolution positive depuis 10 ans concernant la proportion d'étudiantes dans les filières mathématiques, puisqu'on est passé de 27% d'étudiantes en 2004 à 28% en 2014. Il est temps que cela cesse, alors mesdames qui venez d'entendre ma chronique, vous n'avez plus aucune excuse, allez faire des maths.
J'ai tellement grincé des dents, je voulais partir et m'échapper dans un lagon abandonné.
Un peu décalé pour Mansfield TYA avec Bleu Lagon. Il est 18h37, vous êtes toujours sur Radio Campus. Quentin, qui avait perdu son téléphone, raté l'heure, etc., vient enfin d'arriver. Donc on va lui laisser le micro, même maintenant qu'il a repris son souffle.
Dans l'arrière-cuisine des sciences, Quentin Rodriguez, Quentin, qu'allez-vous nous préparer aujourd'hui ?
Bonjour à tous. Alors, au menu de l'arrière-cuisine des sciences aujourd'hui, quelle place pour la science en démocratie ? De controverses sur les OGM en débat sur l'interdiction du glyphosate, des climato-sceptiques aux anti-vaccins, du nouvel eugénisme génétique aux craintes qu'inspire l'intelligence artificielle, de la place des sciences dans les démocraties occidentales ne cesse ces dernières années d'être bousculée, interrogée, contestée. L'histoire et la philosophie des sciences peuvent nous aider à comprendre les ressorts de cette situation. Tout d'abord, posons le cadre. Grossièrement, la place que la science occupe dans nos sociétés contemporaines date du milieu du XXe siècle. Cela va probablement surprendre beaucoup d'entre vous, mais ce que nous baptisons de nos jours « recherche scientifique », élaborée dans des laboratoires réunissant un collectif de chercheurs professionnels autour de locaux et d'instruments partagés, rémunérés pour leur travail, le plus souvent par la puissance publique, tout ça n'existait pas il y a un siècle. C'est bien entendu la Seconde Guerre mondiale qui a servi d'accélérateur à ce nouveau régime social des sciences, stabilisé ensuite dans le contexte de la guerre froide, des Trente Glorieuses et de la course à la suprématie militaire et culturelle entre chaque bloc. Ce mode d'organisation très récent à l'échelle de l'histoire des sciences a été baptisé par les historiens Big Science, la science lourde, par opposition à la science pratiquée jusqu'au XIXe siècle à domicile par des savants amateurs. Quel rapport avec les mouvements contestants pour diverses raisons l'institution scientifique, me direz-vous ? Eh bien, en devenant une institution sociale à part entière, la science est devenue un objet politique. On comprend bien que, confiné à l'obscurité d'un cabinet de curiosité et n'ayant d'autre implication que d'aimables jeux intellectuels entre gens de bonne famille, la science ne provoque de grands conflits sociaux. Il en est tout autre lorsque son importance économique se mesure en points de PIB, en centaines de milliers de chercheurs, et qu'une molécule élaborée dans un laboratoire de recherche peut se retrouver en quelques années, distribuée dans chaque pharmacie ou chaque supermarché, grâce à la force de frappe de notre mode de production capitaliste. Un domaine très récent en philosophie de la connaissance s'attelle à éclaircir les conditions d'élaboration et de circulation de connaissances dans un tel contexte d'intrication sociale forte. C'est ce qu'on appelle l'épistémologie sociale. L'un des philosophes travaillant dans ce domaine, sur lequel j'ai eu l'occasion de me pencher, s'appelle Philippe Kitcher. Il a publié un livre important en 2001 intitulé « Science, vérité et démocratie ». Tout l'enjeu du travail de Kitcher est de montrer qu'il existe une troisième voie entre les gens qui se sentent agressés par certains développements de la science et les défenseurs aveugles de la liberté de la recherche. Excusez-moi, je reprends mon souffle. Pour les premiers, la science en tant qu'institution sociale est le produit de certains intérêts et ne peut logiquement que servir la main qui la nourrit, comme les élites dirigeantes ou les multinationales pharmacochimiques. Pour les seconds, la recherche de la vérité ne peut souffrir de débat hors de la communauté scientifique, et toute tentative de limiter ou d'orienter cette recherche de l'extérieur ne peut mener qu'à l'obscurantisme. La science n'est pas démocratique, la vérité ne se négocie pas, circuler, il n'y a rien à voir. Kitcher donne des points à chacun des deux camps. Du côté des croyants scientifiques, le danger à éviter est celui du relativisme. À choisir chacun la vérité qu'il rassure, l'idée de vérité se dissout elle-même. L'autonomie de la recherche scientifique est alors vue comme une garantie de son objectivité. Du côté des sceptiques des sciences, l'ennemi est le mythe de la pureté de la science. Pourquoi croyez-vous qu'il existe depuis 40 ans une pilule contraceptive pour les femmes et toujours pas pour les hommes ? Celle-là va plaire à Olivier. Parce que le système hormonal masculin serait plus complexe ? Sûrement pas. Mais probablement parce que les scientifiques et les décideurs dans ce domaine étaient quasi exclusivement des hommes et que la recherche sur la contraception masculine non seulement ne les intéressait pas, mais n'était pas dans leur intérêt, préférant laisser ce fardeau aux femmes. Vous me direz qu'il s'agit de recherche appliquée et que la recherche fondamentale, elle, ne vise aucune application concrète. Mais cette dichotomie ne résiste pas à l'examen. Pas depuis que les travaux de Turing en mathématiques fondamentales ont donné une lointaine impulsion à l'essor de l'ordinateur et de l'intelligence artificielle, ni depuis que l'élucidation du code génétique et de la structure de l'ADN permet aujourd'hui aux parents américains de choisir le sexe, la couleur des cheveux, des yeux, voire de la peau de leurs enfants. Encore moins depuis que des travaux ésotériques sur la structure la plus intime de la matière, lus par 20 personnes dans le monde, ont débouché en moins de 10 ans sur l'arme la plus destructrice jamais inventée. Je parle de la bombe atomique, bien sûr. On pourrait multiplier les exemples. Cet appel à une recherche pure, détachée de toute implication dans le monde réel, menée par des êtres éthérés, est bien évidemment un mythe. Certes, la discussion libre de points de vue opposés est le meilleur moyen de faire progresser nos opinions. Le biais consiste à imaginer que la science puisse constituer une telle arène, close sur elle-même, hermétique à la société dans laquelle elle se développe, indépendante de pressions dites extérieures, c'est-à-dire de préoccupations bassement matérielles. Ce que Kitcher démontre, c'est que dans notre société traversée de contradictions, de rapports de force entre riches et pauvres, de domination sexuelle, religieuse, raciste, etc., la lutte qui se déroule dans cette arène entre positions scientifiques sera toujours asymétrique. Lorsque les spectateurs de l'arène peuvent avoir à souffrir ou à gagner de l'issue de la confrontation, il est illusoire de croire à une neutralité féconde. Alors comment faire ? Bien sûr, il est très difficile de prévoir si davantage d'issues positives ou négatives sont à attendre de tels programmes de recherche, même pour des chercheurs du domaine. Alors, soumettre la décision de poursuivre ou non ce programme à l'opinion publique semble absurde. Pourtant, il paraît légitime dans une société qui se veut démocratique de mettre en débat la poursuite, sur fonds publics, de telles lignes de recherche en intelligence artificielle, qui pourraient ouvrir à des applications extraordinaires, tout comme mettre au chômage la portion la moins éduquée de la population, ou de tels projets en agronomie, qui pourraient conduire à augmenter les rendements tout en fragilisant l'écosystème, quand d'autres lignes de recherche laissent espérer une voie plus équilibrée. Entre l'élitisme scientifique qui dénie à qui que ce soit le droit de mettre son nez dans ses affaires, et une démocratie vulgaire qui confond délibération avec sondage, Philippe Kitcher prône un modèle de science bien ordonnée au service d'une démocratie éclairée. Celle-ci nécessite bien sûr l'éducation des préférences des citoyens et des outils de délibération permettant de les informer honnêtement sur les potentialités de chaque perspective de recherche. Mais elle implique également pour les scientifiques que rendre compte de son travail et en expliquer les enjeux, théoriques comme sociaux, n'est pas négociable dans une société démocratique à qui l'on demande de financer la recherche et d'en supporter les conséquences.
Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight.
Preacher man, don't tell me heaven is on the earth.
Révolution souffle ce soir dans le studio. Je pense que c'est l'arrivée d'Antoine hein, comme animateur qui provoque ça. Vous voyez le plaisir qu'il prend à refaire toutes les virgules. On l'arrête plus. Du coup, vous venez d'écouter Get Up Stand Up de Bob Marley and The Wailers. En tout cas, c'était un petit moment révolutionnaire. C'est sympa, hein ? Non ? Cette petite émission ? Pas du tout ?
Si, on s'est régalé.
Bon, on s'est régalé, mais on va s'arrêter là, puisque exceptionnellement, nous avons la virgule de la prochaine chronique.
L'agenda du doctorant, c'est l'agenda doc.
C'est un peu surfait quand même, hein. Ça manque de spontanéité, cette petite virgule.
Oui, mais écoute, moi j'y suis pour rien. Hein. On garde la virgule de la présidente, c'est pas de ma faute quand même, dis donc.
Ouais, on sent qu'il y a des privilèges, on en revient toujours au même point.
Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc, une fois n'est pas coutume, je débute cet agendoc avec une invitée. Et quelle invitée ? Grande surprise, Élodie Blandin, d'Astuscience, vient nous présenter... la deuxième édition clermontoise des rencontres montagne et sciences. Bonsoir Élodie.
Bonsoir, je vais prendre un abonnement je pense.
Je vais t'inviter à chaque fois que je sais pas quoi dire en fait. C'est pas mal non ?
Très bien.
Donc la première édition pour laquelle je t'avais également interviewé a eu un franc succès auprès du grand public clermontois. Près de 800 personnes je crois. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore ce que sont les rencontres montagne et sciences, peux-tu nous expliquer ce que c'est ?
Oui, alors c'est simple en fait. Les Rencontres Montagne et Sciences, c'est un festival qui a été initié il y a maintenant 4 ans à Grenoble par des chercheurs qui ont fondé l'association Montagne et Sciences. Et c'est en fait un festival de films d'expédition scientifique en montagne qui sont là pour valoriser à la fois le travail des scientifiques sur le terrain et puis aussi sensibiliser le public à la protection de l'environnement.
Donc, ces rencontres se déroulent sur 2 jours, le vendredi 12 janvier et le samedi 13 janvier. Donc, côté programme, comme tu l'as dit, donc on va retrouver des projections de courts-métrages d'expéditions scientifiques en montagne. Et nouveauté cette année, un collectif local propose des activités annexes. Alors, première question, qui est ce collectif? Et deuxième question, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ces activités?
Oui, alors en effet, cette année, AstuSciences a souhaité s'associer à des acteurs locaux pour pouvoir organiser une programmation annexe plus complète. Et donc, on s'est associé à la fois donc, à la délégation Rhône-Auvergne du CNRS, à la cellule diffusion de la culture scientifique technique et industrielle de l'université, au laboratoire MacBuy Volcan, à l'Observatoire de physique du Globe, au Club Alpin Français, et puis à une doctorante de l'INRA. Et j'oublie le LABEX Clairvolk. Et donc l'ensemble de ces acteurs ont travaillé sur une proposition d'activité, pour, notamment pour les scolaires. L'idée était de proposer à la fois des visites de laboratoire, donc plutôt pour les plus grands. Donc ça concerne plutôt des quatrièmes et des premières. Donc il y a 3 classes qui vont pouvoir bénéficier de visites de laboratoire, à la fois du LMV et puis du laboratoire de météorologie physique. Et puis les autres, donc ça ce sera sur le campus des CESO, et puis les autres enfants, ils ne seront pas en reste, les primaires, puisqu'on va leur proposer des stands d'animation scientifique, cette fois à la Maison de la Culture, dans une salle annexe. Et là ce sera à la fois donc, des collégiens qui font partie du club à tourisme du collège Albert Camus, qui vont venir présenter des maquettes sur lesquelles ils ont travaillé autour des glissements de terrain et des tsunamis. Il y aura aussi le muséum Henri Lecoq avec lequel on est partenaire qui va présenter une animation autour de l'histoire de l'observatoire de météorologie au sommet du Puy-de-Dôme. Il y a aussi un stand spéléologie et sciences puisqu'il y a beaucoup de spéléologues en Auvergne qui ont accompagné des chercheurs notamment au Creux de Soucy et dans les grottes du Clairzou récemment. Donc ils vont parler aux jeunes de cette collaboration entre sportifs et scientifiques. Et puis un dernier stand autour de la géologie et notamment de la nouvelle carte volcanologique de la chaîne des Puys qui a été réalisée par le laboratoire Magma et Volcan et par l'UMR Territoire.
Merci pour ces précisions. Du coup, le vendredi, je note qu'il y a 3 séances de projection, 9h15 et 14h pour les scolaires. Est-ce que ces séances sont quand même ouvertes au grand public ?
Alors, en théorie, les séances scolaires sont bien ouvertes au grand public, sauf que là, on a été encore victime de notre succès sans doute. La séance du matin est complète, donc il n'y a plus de place. Et on a réservé quand même une 20aine de places pour la séance de l'après-midi pour le grand public qui souhaite venir.
D'accord. Et donc la 3e séance est à 20h30, celle-ci est ouverte à tous. Et petite particularité, vous êtes tous invités à venir déguisés en explorateurs scientifiques. Vous serez pris en photo à l'arrivée, les photos seront ensuite soumises au vote du public et il me semble que les lots seront remis dès la fin de la soirée, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Et puis j'en profite d'ailleurs pour remercier l'ensemble des partenaires qui offrent des lots. Donc peut-être que l'évocation de certains noms va vous faire deviner quels sont les lots qui vont être remis. Donc il y a un partenariat, on a la salle d'escalade, la nouvelle salle d'escalade Biop, 106 No Scouts, le panoramique des Dômes, le volcan de l'Antégie, Freedom Parapente et Montagne en Seine. Donc de beaux lots en perspective.
Ça me donne envie de me déguiser. Bon, je sais pas comment, mais j'ai envie. Et le samedi 13, donc le lendemain, il y aura 2 randonnées scientifiques à partir de 10h. Donc la première intitulée Déambulation volcanique et la deuxième Préservation et mise en valeur des puits. Quel est l'objectif, en dehors de marcher, bien sûr, de ces 2 randonnées?
L'objectif, c'est un peu comme l'objectif global de ce festival, hein, c'est de sensibiliser le public aux questions environnementales, notamment avec la randonnée sur la gestion en fait, des massifs et le pastoralisme, puisque cette randonnée elle a été construite en partenariat avec le parc régional des volcans d'Auvergne. Et l'objectif, c'est vraiment de montrer aussi au public comment arrive à cohabiter l'ensemble de ces activités, les activités de loisirs, le pastoralisme sur le massif. Et puis la randonnée volcanique, elle est un petit peu plus plus décontractée, on va dire, légère. L'idée, c'est de découvrir un petit peu la formation volcanique de la chaîne des Puys. Et notamment, elle sera accompagnée, encadrée par le Club Alpin Français et puis par une volcanologue qui est aussi, qui est aussi guide de moyenne montagne.
Donc, je suppose que le nombre de places est limité pour ces randonnées ?
Oui, c'est limité à 20 personnes. Il reste encore des places, donc il ne faut pas hésiter à s'inscrire. Le formulaire d'inscription est sur le site culturescientifiqueauvergne.fr.
Eh bien, écoute, merci à toi, Élodie, pour toutes ces précisions. Donc, les rencontres montagne et sciences, donc c'est le vendredi 12 et le samedi 13 janvier. Et vous retrouverez toutes les informations sur le site culturescientifiqueauvergne.fr et montagnesciences.fr. Mais en réalité, ces rencontres commence dès la semaine prochaine, même jour, même heure, avec l'équipe de C'est Grave Doc, l'émission thématique de l'association. Les chroniqueurs et les invités parleront de montagne et sciences, bien sûr, mais également des risques. Alors, la suite du programme de ce début d'année, dimanche 7 janvier, retrouvez dès 8h le marché sur la place de Jaude. Et comme toujours, les producteurs locaux auront à cœur de vous offrir les meilleurs produits de la région. Au Puy de la Lune, retrouvez le soir même, à partir de 18h30, la soirée apéro jazz avec les Tripotes. Et je précise que c'est bien le nom du groupe, les Tripotes. Pour les amateurs de neige, le SUAPS organise les journées de la glisse, ski, snow et raquettes, du 17 au 20 janvier à Superbès, avec des tarifs préférentiels comprenant le transport, le forfait, le repas et l'encadrement, et si nécessaire, le matériel. Pour les intéressés, les inscriptions sont ouvertes du 8 au 19 janvier auprès du SUAPS. Et pour ceux qui veulent, moi je propose une journée luge. Mais bon, plus sérieusement, le bar des singes, qui habituellement tombe le premier mardi du mois...
Le bar des singes ?
Le bar des singes, ouais, j'ai marqué n'importe quoi. Le bar des sciences, à la baie des singes. C'est pas mal. Bon, habituellement ça tombe le premier mardi du mois, donc, c'est-à-dire hier, aura finalement lieu le mardi 16 janvier.
Il est rebaptisé pour l'occasion.
Voilà. Et donc, venez débattre avec des experts en la matière du progrès et des innovations. Ces deux notions sont souvent synonymes d'amélioration, mais sont-elles toujours réellement positives ? Alors, pour vous mettre en appétit, voici une petite question. Quand une petite innovation comme le plastique est utilisée dans le monde entier, n'est-ce finalement pas le progrès de la pollution ? Et donc, enfin, pour tous les docteurs de 2017, la soirée du doctorat, au cours de laquelle vous recevrez l'écharpe doctorale, aura lieu le vendredi 26 janvier au pôle tertiaire à la Rotonde. Soirée que j'aurai l'honneur de présenter avec Quentin. C'était la bonne nouvelle fin 2017. On a appris ça. Es-tu ravi de présenter cette soirée ?
Autant que toi, au moins, je pense.
Est-ce que vous allez vous habiller en Dupont et Dupont ?
Absolument pas, non.
Bon, alors Barbara ne sera pas invitée déjà.
On fera des blagues aussi bien qu'au NRJ Music Award et au César et tout, ça va être de la bombe.
En même temps, le niveau n'est pas toujours très haut, hein, vous avez de la marge.
Bon, comme chaque mois, vous retrouverez l'ensemble de ces informations sur la page Facebook de l'association. Je vous souhaite une bonne soirée. Et rendez-vous le 10 janvier pour le 1er d'octobre de 2018.
Merci Ludivine. Ah, merci Ludivine, je la refais. Alors, et puis merci à tous pour cette première émission de janvier. Une émission un petit peu... on a démarré en fanfare quand même. Je trouve qu'elle était un peu rocambolesque. Mais finalement, on termine dans les temps. Et puis on termine quand même avec Ludivine qui arrive à nous parler du bar des singes et passer des tripotes à, aux activités de glisse. Je trouve que c'était quand même assez fort.
C'est riche.
C'était très riche, bon, très
fort. Au moins,
fin.
On ne va pas s'ennuyer.
Voilà, toute l'émission a été... oui, interrompu de petites virgules très fines aussi ce soir.
Il n'y avait aucune grossièreté.
Antoine précise qu'il n'y avait aucune grossièreté, mais voilà. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça va vous donner envie de nous écouter tous les premiers mercredis du mois de 18h à 19h sur les ondes du 93.3. Puis si vous adorez nous écouter, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission. On va quand même sortir le podcast, mais vous n'êtes pas obligé de faire des enregistrements de nos super jingles, hein, ce serait bien. Du coup, si vous voulez plutôt le fond des chroniques, qui quand même était scientifique et très bien faite, vous pouvez retrouver des vidéos sur le YouTube de Dr Verne, où là, on vous épargnera justement tout le côté technique, virgule, sympathique. Et puis surtout, moi je vous dis à très vite, et surtout, je laisse l'antenne le mois prochain, dès le 7 février, à Antoine, que vous avez eu donc le plaisir de découvrir plus en profondeur ce soir. Bonne soirée à tous.
Vous venez d'écouter Quoi de notre doc, l'émission de Dr Verne.